9h30 minutes, on se souvient tous du scandale de dopage impliquant les Russes. La décision qui est tombée, le tribunal du sport a tranché. La Russie est exclue de toutes les grandes compétitions. Ils ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas en organiser. Sauf que les athlètes, eux, peuvent évidemment compétitionner. Paul Laurier est président de Vigitech. Il est un des enquêteurs, un Québécois, donc parmi l'équipe chargé de récolter les données dans le laboratoire russe à Moscou. Et là, on peut imaginer le contexte à la fois personnel et aussi professionnel. Monsieur Laurier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, c'était quoi le mandat? Comment vous vous êtes retrouvé au sein de cette équipe-là?
Ben, en fait, ça commence doucement avec la mise au jour. En fait, l'Agence mondiale antidopage a reçu une base de données qui était celle d'un informateur et le scandale commence en 2014. Il y a des publications dans les journaux. On a Sochi, on a l'histoire de la triche au niveau des échantillons d'urine. Moi, je commence en 2017 où l'Agence mondiale reçoit une base de données qui est chaude. C'est celle qui a été extraite du laboratoire qui est à Moscou. Avec le premier mandat, simple, on me demande de rebâtir une base de données SQL, ce qui est dans nos, de manière forensique, de manière judiciaire, parce qu'on est une firme qui fait ça, on a l'expertise. Donc, le mandat commence, on rebâtit la base pour qu'elle soit lisible et qu'elle soit intègre. Et là, on commence, moi, mon mandat, c'était juste de la donner au moment d'enquête de l'équipe d'Agence mondiale pour qu'ils fassent les vérifications dans la base de données. Moi, à ce moment-là, c'est simplement un mandat technique, technologique.
Mais c'est un mandat qui vous est donné par l'Agence mondiale antidopage?
Oui, c'est un mandat qui est un peu pas par les pages jaunes, là, mais par référencement, parce que chez l'Agence mondiale, on n'avait pas les ressources internes pour être capable de rebâtir cette base-là. Et comme elle était chaude, comme on pensait qu'il pouvait avoir des problèmes avec la base, ben on a fait appel à nos services. Et là, ben nous, le premier mandat, c'était vraiment de rebâtir une base de données pour qu'elle soit intelligible et que tout le monde la comprenne et qu'on soit capable de l'héberger ou de distribuer des données sécuritairement. On comprend le contexte que la base de données là, était assez chaude. C'est une base qui était vraite, qui était extraite du laboratoire de Moscou.
Et à quel moment vous avez compris qu'en plus de ce mandat, ben, il fallait se déplacer et se rendre à Moscou pour poursuivre l'enquête?
Ben, en fait, c'est venu beaucoup plus tard parce que c'est venu en fait il y a une série, parce que là, il faut comprendre qu'il y a des tractations politiques, il y a des tractations au niveau de l'agence, il y a eu, à un moment donné, on a dit, ça a été contesté, les Russes ont été réintégrés à la condition qu'ils donnent les données du laboratoire, et les Russes ont accepté, ont été réintégrés, ça avait fait un brouhaha à cette époque-là, et soudainement, je me retrouve assis dans un bureau... Je suis seul dans le bureau et il y a deux personnes qui rentrent, la porte se ferme, mais là, on m'a demandé vraiment on m'a parlé du mandat et là, il fallait aller extraire, on cherchait quelqu'un de fiable pour aller chercher les données à Moscou. Je vous dirais que j'ai le menton m'a tombé, ça m'a pris quelques secondes avant de vraiment comprendre. Il faut comprendre qu'à l'Agence mondiale, le directeur, c'est un policier allemand. L'enquêteur principal avec qui je fais affaire, c'est un qui a signé le rapport là, qui est disponible sur le site de l'Agence mondiale. Ben, l'enquêteur principal, c'est un Australien, un gars qui a fait des homicides. Il y a un analyste qui est là, qui est à Lausanne, qui est un docteur en données. C'est assez multifonctionnel, multilangage. Et là, ben, on me demande d'y aller. J'ai pas dit oui sur le coup. J'ai été comme vraiment. J'ai pris des précautions dans le sens où la première personne que j'ai consultée, c'est mon épouse. Voir si était d'accord avec ça, mes enfants. Parce que, évidemment, on comprend assez vite qu'on s'en va dans un milieu hostile.
Oui, ça, c'est clair. Il y a eu deux missions. La première, mi-décembre 2018. Quand vous descendez de l'avion, là, d'abord, vous sentez que vous êtes, j'imagine, suivi. Vous êtes escorté. On suit vos déplacements. Comment ça se passe?
En fait, il y a eu trois missions. La première mission où j'ai eu mon cours de de laboratoire 101, là, comment les prélèvements d'urine sont faits, comment sont testés, comment la machinerie est faite, parce que c'est très, très complexe. Il y avait une trentaine de machines à perquisitionner, à aller chercher des données. Donc, il faut comprendre la structure, les liens qui sont, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que c'est un échantillon, comment c'est fait. Après ça, je suis revenu. Puis sur la première mission, je vous dirais que quand on débarque, premièrement, moi, je connaissais pas, il y avait d'autres membres qui étaient là. Et la première mission a été un échec. Là, on est parti le 15 décembre, mais là, on arrive à Moscou. Là, il y a le décalage, la préparation. On se prépare au maximum. J'étais préparé et techniquement et mentalement et au niveau sécuritaire parce qu'on sait où on s'en va, mais on est débarqué de l'avion, on n'avait pas de visa. Et je vous dirais que là, c'était au niveau humain, c'est assez... Pour les gens qui sont allés, les murs verts, on est escorté dans une place qui est pas là, personne ne parle la langue. Il y a un officier qui sort avec le collet trop grand, la chemise, c'est vert. Puis là,
est-ce que vous sentez de l'intimidation?
Ben, c'est sûr qu'on est intimidé, mais premièrement, il fallait avoir les visas d'entrée. Ça a pris un certain temps. Finalement, les visas ont été délivrés, mais à la sortie des barrières de douane, là, je vous dirais que c'est sûr qu'on était épiés, il y avait de la télévision, il y avait des cartes de reportage, il y avait des gens, on savait, comme on est tous, il y avait des anciens policiers aussi dans l'équipe, mais on sort pas un policier de son habitude. Fait que c'est sûr qu'on était suivis, mais on était aussi escortés par des vannes ministérielles. C'est-à-dire qu'on était sous la protection du ministre du Sport qui était en charge de la mission. Donc, on était surveillés de près parce qu'on était dans un environnement contrôlé. Et c'était aussi les données qui nous avaient été dites. C'était sous la c'est Investigative Committee of Russia, ça, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est la police qui est directement sous le président de Poutine. Fait que c'est assez intimidant. On s'entend, c'est des colonels, on parle, on serre la main à des gens, puis c'est vraiment des rangs militaires. Et là, on comprend que qu'on était dans une mission assez... c'était difficile, là, c'était hautement diplomatique.
Je ne veux pas vous demander de dévoiler, évidemment, des méthodes d'enquête, mais vous êtes retourné à Moscou janvier 2019. C'est clair qu'ils n'ont pas l'intention de vous laisser faire. Ils n'ont pas intérêt à vous fournir ce que vous cherchez nécessairement.
Ben, c'est clair. Et puis, si vous allez sur le site de l'Agence mondiale et sur le site du tribunal arbitral du sport, la preuve a été faite. Il y a un rapport forensique, c'est-à-dire de sciences judiciaires, qui a été élaboré, qui clairement, pendant qu'on est là, avant qu'on arrive là, pendant qu'on est là, entre les deux missions, il y a eu des changements, il y a eu des altérations dans les données, ce qui a été prouvé et ce qui a été débattu, c'est-à-dire même pas débattu, parce que quand on est arrivé au procès qui a eu lieu au début décembre par Zoom, là, j'ai assisté à ça, on était supposé se déplacer à Lausanne où le tribunal est, mais ça s'est fait par Zoom où j'ai témoigné. Il fallait, et l'intégrité des données n'a jamais été mise en doute. Ça fait un petit velours parce que quand vous faites ce travail-là, c'est la dernière chose. Quand j'étais policier, j'ai fait des causes civiles, criminelles, pénales. Vous voulez pas que ce type d'accrochage-là vous arrive, que par une faute technique, vos données soient mises de côté parce qu'il y a une erreur technologique. On a été vraiment... C'est sûr qu'ils ne voulaient pas nous les donner. Ils nous les ont données. Et après, avec des outils très, très puissants, on a réussi à prouver, en fait, l'équipe, parce que l'analyse finale a été confiée à des experts du laboratoire de Lausanne. C'est assez complexe. Mais la preuve a été faite que l'altération des données avait été faite avant, pendant et après notre... Parce qu'il y en a même eu après. Quand on a été confrontés à la preuve technologique, ils ont essayé de maquiller et de dire que c'est un complot et que, pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui ont Netflix, vont aller voir Icarus, là, qui parle de M. Rukhchenkov, qui est là, au centre du débat, qu'il a essayé de faire de l'extorsion, mais ça n'a pas été cru et le tribunal a maintenu la sentence, 2 ans de suspension pour diverses choses.
Moi, comme policier, est-ce que c'était facile de comprendre que vous étiez suivi, qui vous suivait, êtes-vous capable de détecter leurs mouvements?
Ben, vous le faites et vous le faites pas, parce que en matière de renseignement, vous savez que ça, laisser croire que vous n'êtes pas suivi, c'est aussi bon que de quand j'étais policier, j'étais dans le monde du renseignement, travaillé au niveau du terrorisme avec des gens de renseignement, tout est formé par le FBI. Donc, vous savez, il y a des techniques qui ne mentent pas. Il y a des regards qui ne mentent pas. Il y a des regards au sol qui ne mentent pas. Donc, c'est sûr qu'on...
On devine.
On devine, on se nettoie dans le milieu, on appelle ça se nettoyer, mais on se nettoyait pas beaucoup parce qu'on était confinés, mais on savait, mais il y a des places, c'était même pas subtil, la presse, il y avait des cartes de reportage, des reporters, on allait manger, on était suivis, tous nos gestes étaient épiés, c'est qu'il fallait pas plus les communications, moi, il fallait que je sois en communication avec mon laboratoire ici au Canada, donc il fallait toutes les couches sécuritaires de communication pour être sûr de que les puis en sachant qu'on n'est pas c'est un terrain hostile, on n'était pas désiré là, c'était pas de gaieté de cœur et on faisait directement affaire avec un ministre qui était directement sur M. Poutine là, c'est les lignes majeures, je vous dirais.
Ouais. Monsieur Laurier, merci, bonne journée.
Plaisir, bonne journée.
Au revoir, Paul Laurier, au revoir. Président de Vigitech. Quand même, c'est une expérience là, tu es en plein scandale de dopage et tu t'en vas à Moscou. Et ceux qui pensent que ça a beaucoup changé, oui, un peu beaucoup. Mais en même temps, disons que c'est un pays où la surveillance, ça fait partie des mœurs.